vais vous poser des questions qui sont caractéristiques du questionnaire à qui il pose ces questions à tout le monde. Et après, donc on va avoir un certain nombre de questions auxquelles vous allez répondre. Et après, peut-être qu'il y a un sujet sur le Maroc, ou sur votre enfance ou quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez envie de, dont vous avez envie de parler. Mm-hmm. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand les gens font l'interview, il y a des gens qui sont très, bon, ils répondent au fur et à mesure. Et puis, il y a des gens qui deviennent plus émotionnels sur quelque chose. On ne sait jamais vraiment en début d'interview qu'on est dans l'émotion, parce que c'est quand au fur et à mesure qu'on vous pose des questions, en fait, tout doucement, il y a des souvenirs qui reviennent. Mm-hmm. Il y a même des choses qui étaient enfouies et qui reviennent. Mm-hmm. Mais c'est pas, ça ne veut pas être un interrogatoire, c'est plutôt ce dont vous avez envie de parler pour que... D'abord, des gens peut-être de votre famille qui vont l'entendre vont dire « Oh tiens, elle nous a raconté ça, on n'était pas au courant. » Et puis, que ça amène vraiment un témoignage sur le type de vie, ce que vous avez vécu, ce que vous avez laissé aussi.
Oui.
Bon, moi je sais que par exemple, mes parents, les deux, ont fait l'interview.
Oui.
Et mon père, c'était très émotionnel. Oui, il y avait beaucoup d'émotions parce qu'il avait une histoire familiale... Yeah. Difficile avec la perte de gens qu'il aimait, etc.
Oui, oui.
Et ma mère, par contre, elle s'est plus concentrée sur... Parce qu'ils étaient d'Algérie, par exemple, c'est sur le départ. Le départ a été assez... bon, voilà. Donc après, c'est avec comment vous vous sentez à l'aise dans l'interview.
Oui.
Vous pouvez parler de choses qui vont vous tenir plus à cœur, d'autres qui vont décrire plus, je ne sais pas, la cuisine.
Oui.
Vous voyez, c'est la cuisine, pas la... Pas la kitchen,
cuisine, mais la cuisine.
Voilà, je me rappelle que ma grand-mère faisait ici aussi.
Yeah, oui.
Just to be sure, when I say thank you to Baba, the first question, that's the one that
she opens up.
She opens up about the origin of her family or something personal.
Whatever personal, just tell us something. So this is just the basic, and then thank you, and then the idea is that depending on how she does it, then. Go from the grandparents. So this gives you a kind of like overview. If you think of it, it's like what you're trying to do is something on the family, something on life in the country, and this is a kind of overview. Something about the immigration leaving the country, and something about the arrival. So this gives, and then reflections. So this is a kind of crib of what you're trying to do, but those are the more detailed questions. Okay, so whenever you're ready,
Bonjour Esther, quel est votre nom complet? Votre nom?
Esther Malka.
Et votre nom de naissance?
Aussi Esther Malka.
D'accord. Et votre date de naissance?
Le 17 juillet 45.
Parfait. Et vous êtes née dans quelle ville?
Meknès. Meknès, Maroc.
Ouais. Je vous remercie d'avoir accepté de participer au projet Sephardi Voices. La première question, c'est de savoir... quelles sont les origines de votre famille? Est-ce que vous avez envie de parler de quelque chose globalement qui concerne votre famille et pour la raison pour laquelle vous auriez accepté de faire cette interview?
Pas vraiment. J'ai pas quelque chose de, comme vous dites, qui est émotionnel. J'ai vraiment bien vécu au Maroc, très bien. Sauf quelquefois, on avait un peu peur. C'est surtout après la guerre des six jours que tout ça, ça s'est mélangé un peu. La famille voulait partir et moi, je ne pouvais pas partir avec mes parents. Ça m'a fait quelque chose. Je venais d'avoir mon premier enfant, alors j'ai trouvé ça vraiment difficile. À part ça, au début, c'était très bien. Mes grands-parents ont très bien vécu au Maroc. Ils étaient un peu d'origine de Fès. Et c'est ça qui m'a choqué le plus, c'est le départ de mes parents.
D'accord. Alors maintenant, on va aller plus précisément dans le questionnaire et justement, on va parler des grands-parents. Est-ce que vous avez quelque chose de particulier à dire à propos de vos grands-parents? Est-ce que vous avez des souvenirs, des anecdotes que vous voudriez partager? Ça concerne aussi bien leur lieu de naissance que... le mariage, les de écoles, est-ce que c'était des gens religieux, enfin, essayez de nous décrire un petit peu vos grands-parents.
Pour religieux, oui, ils étaient religieux. Et moi, je n'ai pas connu vraiment ma grand-mère, je l'ai connue, j'étais très jeune et je me rappelle, elle était très malade. Elle était dans un lit et à chaque fois, je disais à maman, pourquoi je ne peux pas moi aller la voir, ma grand-mère. Elle me disait, non, c'est mieux que tu restes à la maison, tu es trop jeune pour ça. Et un jour, par hasard, je suis partie avec mes deux grands frères. Je les ai suivis pour aller voir ma grand-mère parce qu'on nous disait qu'elle était très malade et effectivement, elle était décédée ce jour-là. Et quand je suis partie, ma mère, elle a dit à mes frères, amenez Esther à la maison, je ne veux pas qu'elle reste là. Alors j'ai compris que je ne verrai plus ma grand-mère. Là, j'étais très jeune. Ça fait qu'on est resté plutôt avec mon grand-père. Et mon grand-père était un homme merveilleux. Il nous gâtait beaucoup et il était tout le temps avec nous. Il passait Shabbat avec nous. Et c'est ça, les bons souvenirs de mon grand-père, oui. C'était un grand-père extraordinaire.
Est-ce que vous pouvez me donner le nom et prénom de vos deux grands-parents, donc maternels?
Oui. Ah, maternel.
C'était paternel, pardon.
Oui, paternel. Alors, elle, c'était Rivka à Azran. Et lui, bien sûr, il s'appelait Jacques Itzhak Malka.
Malka. Et du côté maternel?
Alors, c'était Soli Amsili. Et ma mère n'a pas connu son père. Ah. Elle n'a pas connu. Je sais qu'il s'appelait Maxime, c'est tout. Amsili. Elle n'a pas connu du tout. Ils étaient les quatre enfants tout petits et ils n'ont pas connu leur père, vraiment.
Non, pas tous.
Non, la plupart n'ont pas connu le père.
Il est mort.
Ils étaient très très jeunes.
Donc vous n'avez pas connu votre grand-père maternel, mais votre grand-mère maternelle, elle vivait aussi avec vous à côté de Meknes.
Oui, à Meknes, oui. Elle vivait avec nous jusqu'à un certain moment, quand il y a eu la vague pour aller en Israël, parmi les premiers, elle était partie avec son fils, parce qu'elle est restée vivre avec son fils quand il s'est marié.
Et donc elle est partie en Israël à quelle date?
Parmi les premiers, je crois en 48, quelque chose comme ça.
Ah d'accord. Donc, vous n'avez pas connu votre grand-mère
Non, j'ai connu ma grand-mère.
Maternelle?
Oui, je l'ai connue pas longtemps, mais après j'ai continué à la voir en allant en Israël. J'allais tout le temps la voir.
Donc dès 1948, vous aviez de la famille en Israël?
Ah oui. C'est les premiers qui sont partis, c'était ma tante et ma grand-mère.
D'accord. Et les deux du côté paternel, donc jusqu'au moment où votre grand-mère est décédée, en fait, votre grand-père est parti avec vous en France après?
Non, mon grand-père est décédé aussi au Maroc.
D'accord.
Juste avant mon mariage.
D'accord, très bien. Alors écoutez, maintenant on va passer à vos parents.
Oui.
Pouvez-vous me donner le nom de vos parents?
Oui, David Malka et Simi Amsili.
D'accord. Ouais. Et comment est-ce qu'ils se sont rencontrés, vos parents?
Mes parents et ma mère me disaient qu'elle était avec quelqu'un d'autre qui venait de Fès et qu'elle était avec des amis et elles étaient en train de chanter et puis mon père est passé, oh, quelle est belle cette voix, qui c'est qui chante, et c'était ma mère et c'est comme ça qu'ils se sont connus. Et puis ma mère ne voulait pas de mon père parce qu'il était bouché, il était sale et elle le voyait sale, lui a dit mais je suis pas toujours sale comme ça, c'est mon travail. Et au début, elle ne voulait pas à cause qu'il était bouché, mais après tout allait bien.
Elle l'a rencontré mieux habillée et ça lui a donné envie. Et combien de temps après est-ce qu'ils se sont mariés?
Ah, tout de suite après. Ils ne sont pas restés longtemps fiancés.
Qu'est-ce que vous appelez pas longtemps?
Elle m'a dit au bout de quelques mois, ils voulaient se marier. Et elle a eu, je crois qu'elle a beaucoup d'enfants.
Et ils se sont mariés
à Meknès.
À Meknès. Ça a été un grand mariage.
Elle m'a dit que c'était le mariage, c'était des grands mariages, ça durait toute la semaine. Ah. Elle me racontait que c'était des mariages extraordinaires, le soir de ceci, le soir de là. Chaque soir, il y avait un événement. Alors, ça durait vraiment les 8 jours. Au Maroc, c'était comme ça, les mariages.
Mais est-ce que c'était quand même assez rare que des gens se rencontrent sans être présentés, que ce soit juste parce qu'il l'a entendu chanter?
Oui, il l'a entendu chanter, elle était avec ses amis, il l'a entendu chanter, puis il a dit « Oh, quelle est belle cette voix, qui c'est qui chante ?»
Mais
puis,
c'était dans un café ou...
Non, juste dans la rue.
Ah, dans la rue?
Dans la ruelle, ils se rencontraient toujours les amis sur la grande rue, et comme Shabbat, comme ça, ils se mettaient ensemble, les filles, et ils bavardaient, ils s'amusaient. Se racontait des choses, se mettait à chanter, et il a entendu la voix, et c'est comme ça qu'il a connu ma mère.
Il est allé faire sa demande ou c'est par le biais de votre grand-père?
Et bien sûr, il a été faire sa demande avec mon grand-père, et tout de suite, même pas 3 mois après, ils se sont mariés.
Et la famille est venue de partout?
Oui.
C'était un grand mariage.
C'était un grand mariage parce qu'il y avait encore de la famille au Maroc à ce moment-là. Il y avait ses sœurs, il y avait les tantes, il y avait les cousins. Alors c'était toujours des grands mariages. Et puis les amis, les voisins, c'était toujours des grands mariages. Pas les mariages d'aujourd'hui, c'était différent, mais c'était des beaux mariages.
Par exemple, comment vous pourriez décrire ce mariage?
Ah, moi je décris. Tout était dans des grandes maisons, ils essayaient toujours d'enlever les meubles et tout, et faire des grandes tables, tout le monde soit assis, les repas chauds, puis tous les voisins venaient aider, chacune faisait quelque chose, c'était le jour, et, par exemple, un jour c'était plusieurs personnes, des amis, des voisins qui venaient faire juste les gâteaux. Un autre jour, c'était vraiment juste pour la soirée du mariage, juste les viandes, les trucs. Et après le mariage, on appelait ça la soirée du poisson. Après, c'était la soirée des présents. Ça veut dire, j'emmène le cadeau pour la mariée, alors ils venaient pour souper. Ils amenaient leur cadeau, elle a apporté un service de ça, et l'autre a apporté un service de... Et ils inscrivaient, comme nous, quand on reçoit des chèques cadeaux, on mettait tous les noms et combien il a... Et c'était comme ça. Alors c'était vraiment quelque chose de...
Il n'y a pas dû avoir de problème avec la viande, ça devait être à profusion.
Ouais, exactement.
Et
ma mère détestait la viande, en peur de ça. Nous, on était gâtés, mais ma mère n'aimait pas, elle n'a jamais aimé beaucoup de viande.
Donc, il n'y avait pas de traiteur, tout était fait.
Oui.
Et il y avait des musiciens qui venaient.
Ah oui, je pense toute la semaine, ils avaient les musiciens. C'était vraiment chaleureux, c'était beau.
D'accord. Et donc... votre papa était boucher.
Oui.
Donc il travaillait. Est-ce que c'était une petite boucherie où il était seul ou il était avec plusieurs personnes?
Il était avec plusieurs personnes, mais c'est lui qui allait avec le rabbin pour voir si la bête n'était pas malade. Et quand il l'égorgeait, c'est lui qui le faisait.
D'accord.
Mon père a travaillé très, 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 très fort. Il a travaillé dans sa vie, mais alors très dur, très dur. Et le dimanche, au lieu de se reposer, on allait avec lui à l'écurie pour voir les vaches, les bœufs, leur donner à manger. On prenait des seaux de fèves pour leur donner à manger. C'était pour nous comme une sortie. En même temps, et c'était du travail pour lui. À part le samedi, il ne se reposait jamais.
Donc juste pour Shabbat?
Juste pour Shabbat, il se reposait. Vendredi midi, ça y est, c'est le repos. Là, il venait fatigué.
Fatigué. Et là, vous prépariez le Shabbat tous en famille avec...
Avec ma mère. On aidait beaucoup ma mère. Moi, mes sœurs, on aidait beaucoup ma mère.
Et donc là, vous étiez nombreux ? Est-ce qu'il y avait d'autres des oncles qui venaient de la famille ?
Oui, on avait ma tante qui venait avec son mari juste pour l'apéritif. Prenait toujours l'apéritif avant...
Du samedi avant,
après la synagogue, ils venaient pour l'apéritif. Et des fois, ils venaient manger avec nous. On passait Shabbat ensemble, on recevait de la famille, on allait chez eux.
Et vous receviez de la famille de votre papa ou juste la famille de votre maman ?
Non, les deux.
Tout le monde habitait à côté.
Oui, tout le monde habitait à côté. Mon père avait qu'une seule sœur au Maroc, qu'il aimait beaucoup, et une autre qui était partie que je ne connaissais pas. Est-ce qu'il paraît qu'elle m'adorait quand j'étais bébé. Et elle était partie parmi les premiers, je ne sais pas quelle date, elle était partie en Israël.
En Israël aussi.
Parmi les premiers, elle était partie. Alors je l'ai connue que lorsque je suis partie en Israël moi-même, et que j'étais déjà mariée avec deux enfants, et c'est là que j'ai connu la sœur à mon père.
Et donc, votre famille était quand même pratiquante. Vous alliez à la synagogue le vendredi, le samedi midi, le samedi matin.
Le samedi matin, oui, ils allaient toujours à la synagogue. Oui, assez pratiquante. On ne faisait rien Shabbat. Shabbat, c'était le repos.
C'était le repos et jusqu'au samedi soir. Et là, le samedi soir, vous sortiez un peu à Meknès ou...
Quand j'étais toute petite, je ne me rappelle pas que je sortais, mais après... avoir eu 10-12 ans, on s'organisait avec les amis, on se voyait dans le même quartier, dans le même quartier.
Et toute la famille vivait plus ou moins à côté dans le
à
même
côté.
Quartier. Il s'appelait comment ? Il y avait un quartier juif ?
C'était pas loin, rien n'était loin. Une ruelle derrière l'autre, à 5 minutes on était chez ma grand-mère, à 5 minutes j'étais à la boucherie de mon père et mon grand-père pour lui emmener le manger de midi. C'est maman qui lui préparait à manger. Alors à chaque midi je venais de l'école, la première chose elle me donnait quoi lui amener à manger à mon grand-père d'abord, et mon père venait après. Il ne venait pas manger au magasin, quand il finissait il venait à la maison manger.
Donc votre maman a toujours eu une activité de femme au foyer?
Ah, beaucoup, elle a beaucoup travaillé maman, beaucoup.
Parce que vous étiez combien de frères et sœurs ?
On est 7 et 7. 7 frères et 7 sœurs.
14.
Ouais.
Ah bien sûr, alors c'est sûr que c'était un travail à plein temps.
À plein temps. On avait du pain tous les jours, du pain frais. Dès qu'on arrivait de l'école, il y avait toujours quelque chose, ou la moufletta, ou des crêpes, ou des chevins, ou n'importe pour le goûter. Elle a beaucoup travaillé, ma mère.
Elle faisait tout maison.
Elle faisait tout maison, tout. Elle n'achetait rien, les gâteaux, les...
Donc elle cuisinait beaucoup tous les jours.
Tous les jours, le manger frais pour midi et le soir.
Parce que vous rentriez de l'école, forcément, il n'y avait pas de cantine, donc vous rentriez le midi.
Pour certains, il y avait la cantine, mais pour ceux qui étaient un peu... ceux qui n'avaient pas les moyens, ils avaient la cantine. Parce que moi, j'ai travaillé à la cantine pendant que j'étais étudiante à l'école. Et j'ai travaillé avec M. Cohen pendant 2 ans. Et il y avait des longues tables et les gens venaient...
Bénévoles.
Bénévoles, quoi. Les étudiants de M. Cohen, c'est eux qui s'occupaient de voir si les enfants mangent, s'ils ont été bien servis. Alors chacune avait une grande table et on faisait attention aux enfants qui mangent. C'est des gens qui bien sûr leurs parents n'avaient pas les moyens, et 2 fois par année je me rappelle on leur disait d'amener des thés d'oreiller, et les Américains nous envoyaient du sucre, de la farine, du riz, et chacun on leur mettait pour la famille.
Parce que vous étiez en école juive?
J'étais à l'Alliance.
À l'Alliance. Mais quand vous étiez enfant, en école élémentaire, etc.
À l'Alliance, tout à l'Alliance.
À l'Alliance juive.
Oui, à l'Alliance.
Et donc Monsieur Cohen, c'était quelqu'un qui... C'était le monsieur de l'agence juive?
Lui, il était professeur et en même temps, il s'occupait de ce...
L'adjointe.
Là,
L'adjointe,
ça s'appelait l'adjointe.
Oui, ceux qui distribuaient l'argent, le manger au Maroc, aux écoles, c'était l'adjointe.
Ça s'appelait l'adjointe, parce qu'il paraît que ça venait de l'Amérique. Ça venait des États-Unis pour aider les gens qui n'avaient pas les moyens. Deux fois par année, on...
Donc c'était une association juive américaine qui envoyait ou une association américaine tout court?
Non, juive.
Juive américaine.
Juive
américaine.
Qui envoyait pour
les gens nécessiteux.
Nécessiteux.
Du sucre, des produits de première nécessité.
Voilà, de la farine.
La farine.
Du sucre, du riz, je sais pas quoi d'autre. Et puis aussi, il leur donnait aussi le goûter.
D'accord.
Vers à peu près 3 heures avant la sortie. Et on avait là-bas une grande cantine avec des musulmans qui travaillaient tout le temps. En plein temps qu'ils avaient leur maison là-bas, qu'ils habitaient. Et ils préparaient les sandwichs. Et, pas des sandwichs, des petites tartines avec de la confiture. Et ils distribuaient à ceux qui voulaient. Ceux qui voulaient, ils prenaient. Ceux qui ne voulaient pas, ils prenaient rien.
Donc vous avez 13 frères et sœurs.
Oui.
Et vous, dans la fratrie, vous êtes numéro combien?
Moi, je suis la troisième. J'ai deux grands frères.
Oui.
Et après moi.
D'accord. Donc c'était une grande table avec 16 personnes minimum à table tous les soirs et tous les jours. Enfin, plus tard, puisque.
Oui.
Mais au tout début.
Au tout début.
Et donc, vous êtes proche de vous êtes très proche de vos frères et sœurs, mais peut-être
très
proche des plus âgés.
Très proche de tout le monde.
De tout le monde.
On est comme ça tous les... Oh, qu'on soit loin ou près, on est très très proche.
Et donc, je vais vous faire un petit peu travailler parce que vous allez devoir me donner les noms de chacun de vos frères et sœurs avec les dates de naissance.
Avec les dates de naissance.
Oh. Alors, ça va être. Mais pas. Oh, juste les années peut-être. Les années.
Parce que j'ai oublié de vous dire que j'ai eu deux frères qui sont nés en Israël. Les plus jeunes.
Les plus jeunes.
Et mes enfants, ils ont l'âge de mes frères et sœurs. Mm-hmm. Ouais. Mais les quatre derniers, ils ont le même âge que mes enfants. D'accord. Quand moi j'étais enceinte, maman était aussi enceinte.
Okay. Donc, on va dire que donc peut-être vous pouvez me donner leur prénom. Alors, le premier.
Le premier, c'est Jacques.
Jacques.
Après, c'est Maxime.
Ok.
Après, c'est Esther, bien sûr. Après, c'est Haïm. Après, c'est Maggie. Après, c'est Rivka. C'est Soli. Momi. Yafa. Rachel. Shoshi, Eli et Yossi. Je crois que j'ai oublié quelque chose.
J'ai pas compté.
Vous n'avez pas compté.
Je me suis arrêtée au bout d'un moment parce que je pensais à ma prochaine question.
Ah, d'accord.
Mais je voulais vous poser la question justement est-ce que vous aviez une bonne relation avec eux, et j'imagine.
Très bonne relation.
Et en fait.
Merveilleuse
relation. Qui oscillait entre presque. Sœur, maman et presque.
On a une très bonne relation. Très très bonne relation, Baruch Hashem. Vraiment, on est. Chacun il aide l'autre. On est. Comme s'ils vivaient tous dans la même maison.
Après, vous m'expliquerez comment ça s'est passé et comment vous continuez. Est-ce que vous continuez à vous voir? Est-ce que vous êtes tous. Globalement, où est votre famille? Entre Israël, les États-Unis?
La plupart sont en Israël, sauf mes deux grands frères qui sont à Montréal et moi.
Ah,
et c'est à cause de moi que j'ai fait venir un frère d'Israël et un frère du Maroc.
D'accord. Alors maintenant, on va passer à des souvenirs plus de la vie dans votre pays natal, qui est donc le Canada. Et quels sont vos premiers souvenirs en ce qui concerne de Meknès? De quoi vous vous souvenez? Décrivez-moi là où vous avez grandi, un peu plus peut-être le quartier, parce que il avait un nom.
Oui, il avait un nom. Il s'appelait la rue du Rabbin.
Oui, la rue du Rabbin.
Du Rabbin. Okay. C'était la rue du Rabbin, c'est ça que ça s'appelait.
Donc en plein quartier juif,
oui.
C'est bon.
Oui.
C'est dans le Mela.
Le Mela.
Le Mela, voilà.
Le Mela.
Ah oui, c'est pour ça que je
sais. Le Mela.
Quel Mela? C'est le nouveau Mela.
Et après ça, mon père a construit une grande maison et on est monté
au
nouveau Mela.
D'accord.
Alors, le Mela, je me souviens un peu. Mais l'autre côté, je me souviens plus.
Et donc, votre papa, du fait qu'il était boucher, vous faisiez partie de quels milieux sociaux? Est-ce que c'était les milieux plus religieux? Est-ce qu'il il aidait pour du caritatif? Est-ce que vous étiez plus vraiment dans son travail et n'avez pas vraiment le temps pour autre chose?
Non, on avait quand même... Même qu'il était dans son travail, on voyait mon père tous les soirs. Et le Shabbat, et quand il y avait les périodes de vacances où on ne mangeait pas la viande, ils nous amenaient en vacances, tous.
Où ça? Au Maroc?
Au Maroc.
Dans quel endroit?
Donc, on allait à... Comment il s'appelle?
Moulay-Yacoub.
Oui, Moulay-Yacoub. On allait...
C'était une source...
Une source...
Ouais. L'eau était chaude, sortie de la terre. Et c'est là-bas qu'ils passaient les vacances parce que ça correspondait aux 8 jours où on ne mange pas la viande.
On ne mange pas de viande.
D'accord.
Alors
comme c'est lui qui distribue la viande, il n'a pas,
il
n'avait pas
de travail.
Alors il profitait pour amener toute la famille là-bas.
Beaucoup de familles juives se retrouvaient là-bas ou pas forcément?
Pas mal. Pas mal.
Dans
l'hôtel, je me rappelle.
Non, pas beaucoup. Mais eux, ils avaient 8 jours. C'est pas tout le monde qui avait le besoin de...
D'accord. Et vous aviez surtout... Enfin, est-ce que vous aviez surtout des amis juifs ou des amis non-juifs? Est-ce que vous en aviez un peu quelques des amis non-juifs ou vous étiez vraiment dans le quartier de la Mela avec eux?
Oui, que j'ai jamais connu des amis non-juifs. Juste des amis juifs.
Bon, déjà avec les frères et soeurs, c'est déjà passé comme des
oui,
amis.
Oui, d'abord, oui, c'est ça, exactement. Et j'avais pas non plus beaucoup d'amis parce que j'ai quitté le Maroc c'est-à-dire j'ai quitté Meknès à l'âge de 16 ans, je me suis mariée.
16 ans.
À 16 ans, je me suis mariée et j'ai vécu à Casablanca. Et tout de suite après, mes parents ont décidé de partir parce que mon grand frère voulait partir. Et moi, je suis restée. Ça m'a fait beaucoup souffrir. Ça, c'était terrible quand mes parents et mes frères et sœurs sont partis. J'étais pas bien du tout. Et après ça, j'ai été les voir après la guerre des six jours.
Je suis désolée, j'ai coupé mon téléphone. On peut couper 2 minutes. I want to turn off my phone. I'm sorry about that. She said she doesn't have any. Her friends
were all Jews. All Jews. She said that, right? Because I wrote down here friends, Christians, but it's like she said all Jewish. Yeah. I'm understanding as it goes along.
On va reprendre, mais en fait, il veut qu'on parle un petit peu. Donc, vous allez pouvoir décrire
les activités.
Oui, les activités que vous faites.
Oui. Bon. Les activités, oui. Les activités qu'on avait, c'est surtout le samedi, je recevais des amis. Et l'après-midi, on avait un club qui s'appelait... Tu sais, quand au dimanche, ils nous amenaient et on chantait...
Les
louveteaux. Les louveteaux, c'est ça. Alors, on passait toute l'après-midi à chanter.
Les scouts.
Comme des scouts, et on nous disait qu'est-ce qu'on allait faire le dimanche, où on allait partir. Ils nous préparaient, qu'est-ce qu'on devait porter. On avait une petite cravate, une petite tenue mignonne. Et puis dimanche, ils nous emmenaient dans les champs, et on visitait les champs, et en même temps, on chantait des chansons en hébreu, des chansons en français. C'était ça presque la plupart des fois.
D'accord, donc vous fréquentez les scouts israélites.
C'est ça, les scouts.
Israélites, c'est et de Meknès en fait.
À Meknès, oui. À Meknès, ils avaient un grand club où on se réunissait tous. Tout celui qui voulait venir, il allait. Mais en général, on était plusieurs filles et garçons. Et on allait là-bas. Et c'était bien, c'était très bien. Je me rappelle, c'était vraiment cute. On passait un après-midi comme ça. Et puis le dimanche, on avait toujours une sortie à faire quelque part.
Et donc, avec les amis juifs des scouts israélites, vous parliez le français ou l'hébreu, quelle langue?
Non, le français.
Le français, toujours.
Le français.
Donc, en majorité, vous parliez le français. Et à la maison, quelle langue est-ce que vous parliez?
On parlait, avec mes sœurs et frères, on parlait juste le français, mais avec ma mère, on parlait l'arabe.
Ok. Avec votre mère, vous parliez
l'arabe? Parlait l'arabe, et mon père aussi, l'arabe. Parlait pas français.
Pas français.
Non.
Et avec vos grands-parents aussi, l'arabe?
L'arabe, ouais.
Et parlez dans la mesure français. Où tout le monde, où la famille, beaucoup de la famille est partie en Israël, c'est donc qu'ils avaient appris l'hébreu.
Ah bon, bien sûr.
L'hébreu en école juive?
En école juive, oui. Et tout le monde parle très bien l'hébreu. Dès la première année, tout le monde parlait l'hébreu.
D'accord. Qui était apprise à l'école ou avec la famille?
Non, c'était d'abord à l'école. Ils étaient jeunes. Tous ils étaient à l'école juive, là-bas en Israël. Ça fait qu'ils ont vite appris. Après, à fur et à mesure, ils sont partis à l'armée, ils se sont mariés.
Je voulais dire ceux qui sont partis en Israël, mais vous, au sein de votre famille, c'était le français.
Oui, au Maroc.
Au Maroc.
Ah, c'était juste le français et l'arabe.
Et l'arabe. C'est... Vous n'avez pas appris l'hébreu au Maroc?
Non, pas grand-chose.
C'est quand ils sont partis qu'ils se sont intégrés. Juste.
Les prières, oui.
L'hébreu, vous l'avez.
Les prières. Les prières. Ça, c'est les prières, les chants de Shabbat, on chantait. Et mon père adorait chanter les chansons de. Depuis qu'il s'est...
Même
ici, mon mari, maintenant, il les chante et ça me rappelle mon père. À chaque fois qu'il fait quelque chose, je me dis, ah, mon père, il faisait la même chose le vendredi soir.
Quand il chantait les prières.
Les prières. Et après, il faisait des chansons aussi, des chansons en hébreu.
Des chansons en hébreu.
De Shabbat. Et samedi midi aussi, les chansons de Shabbat.
Donc vous aimiez beaucoup chanter dans la famille?
Oui.
Beaucoup?
Oui, comme ma mère.
parce que le samedi aussi, après-midi, vous chantiez et après vous alliez avec les scouts. Ouais. Donc ouais. Finalement, vous avez beaucoup de souvenirs autour des chansons.
Des chansons, beaucoup de chansons. D'ailleurs, même mes petites filles, ils adorent chanter. Ma fille, elle fait des spectacles même à Montréal. Elle adore chanter.
D'accord.
Alors, j'ai mon autre fille qui est à Vancouver aussi, à l'âge de même pas 16 ans, elle a fait un spectacle à Montréal, parce qu'elle adore chanter. Dans la famille, on aime chanter.
Vous aimez chanter?
On aime chanter.
Donc, en fait, on va dire qu'une grande partie de votre activité tournait autour de vos activités autour de la famille, la religion. Et le chant.
Et le chant.
Que vous partagez soit en famille, soit dans d'autres groupes.
Dont je vous ai parlé,
les
groupes les scouts, ouais.
D'accord. Et est-ce que vous avez des souvenirs de ce dont on vous parlait à l'école? C'était l'Alliance, donc c'était une école juive. Et est-ce qu'on vous expliquait un petit peu ce qui se passait en dehors du quartier juif ou est-ce que tout tournait autour de la religion et puis éventuellement, puis bien sûr, l'école?
Non, en général, on ne nous parlait de rien. On étudiait, mais on ne nous parlait pas de ce qui se passe autour.
Et quelle était votre interaction avec les musulmans du Maroc?
On était vraiment bien. Je pense on avait des voisins. Je me rappelle quand mon père avait construit la maison, on avait des voisins qui étaient formidables. On aimait aller chez eux, ils venaient chez nous.
Des voisins musulmans?
Des voisins musulmans, oui. Et on avait de très bons rapports avec eux.
Donc ils savaient bien sûr que vous étiez juif, et tout
sûr.
Se passait très bien.
Tout se passait très
tout
bien.
Tout le monde respectait les fêtes de tout le monde?
Oui. Oui, c'était vraiment. J'ai de très bons souvenirs de mon enfance, quoi. Après, c'était autre chose. Mais de mon souvenir, je me rappelle, c'était vraiment.
Vous aviez pas particulièrement des voisines ou amies musulmanes avec qui vous aviez des activités?
C'était, non, c'était pas des activités.
C'était plus poli.
C'était plus poli. quand maman, par exemple, faisait une marmite qu'elle savait qu'ils aimaient, elle me disait, va, amène à la voisine. Et c'était réciproque. Elle aussi, quand elle faisait des affaires que nous, on ne savait pas, ça nous faisait plaisir qu'elle nous amène. Le pain, à eux, était différent. On était bien.
On peut dire que vous viviez en bon voisinage.
En bon voisinage, on peut dire ça, oui.
Et vous aviez des personnes qui travaillaient chez vous, des femmes de ménage, oui, musulmanes.
Oui.
Vous en aviez combien?
Une personne. Ma mère, elle avait juste une personne qui venait. Le dimanche, il y avait une autre qui venait pour la lessive, parce qu'avant, il n'y avait pas de machine à laver. C'est tout ce que je me rappelle, mais ça a été toujours des gens très corrects, très bien.
Il n'y a pas eu d'incident au Maroc dans l'ensemble, même c'est quand il y a eu la guerre.
Quand il y a eu la guerre des six jours, j'étais déjà mariée, j'avais déjà deux enfants, et mon mari, il avait tellement eu peur qu'il nous a mis dans un avion, il nous a envoyé à Paris. Et là, c'était un désastre parce que j'attendais quelqu'un qui vient me donner de l'argent, qui n'est jamais venu. Et j'étais obligée. La famille, il n'y avait pas beaucoup de familles en France. Alors, j'étais quelques jours à la Croix-Rouge avec mes enfants. Et ça a été un mauvais souvenir pour moi parce que mes deux enfants ont beaucoup souffert et pleuraient constamment. Alors, j'ai décidé de reprendre le chemin et de rentrer chez moi, au Maroc.
Tu n'as pas parlé du pourquoi ou tu es partie?
Ah, pourquoi? Ah oui, bon, je n'ai pas dit pourquoi je suis partie après la guerre.
Si vous permettez, on va continuer encore un petit peu, puis après on reviendra sur cet élément de votre vie.
D'accord.
Qui est important. Mais,
d'accord.
Alors, parce que justement, par exemple, est-ce que vous avez... Bon, est-ce que vous avez des souvenirs, par exemple, de la nourriture préparée par vos parents et vos grands-parents?
La nourriture?
Oui. Est-ce que vous avez des souvenirs? Tout ce qui a trait un petit peu à des souvenirs de la vie au Maroc, c'était surtout de la nourriture. Est-ce que c'était la nourriture plutôt, des fois, française, ou c'était tout autour de cette nourriture juive du Maroc?
C'était toujours une nourriture juive du Maroc, donc pas de recettes françaises, ni comme on fait maintenant, on essaye de changer les menus. Non, c'était Shabbat, c'était telle chose. Par exemple, le poisson, premier Shabbat, il fallait avoir le poisson, sinon c'est pas Shabbat. Il fallait faire la beracha d'abord pour le poisson, que ça soit le vendredi soir ou que ça soit le midi. Il fallait d'abord samedi midi. Pour l'apéritif, d'abord le poisson, faire la beracha, après on mangeait. Après avoir fait l'apéritif, vendredi soir, c'était le premier repas aussi, le poisson. Après la viande. Et bien sûr, il faisait beaucoup de salades, comme on fait. Beaucoup de salades.
Le midi, la daf.
Et le midi, la daf, les salades. Et à 4 heures, pour la Séouda, ma mère préparait toujours du poulet, l'omelette, les boulettes, tout ça, pour la Séouda de Shabbat, vers 3h, 4h.
Et votre famille, surtout, enfin vos grands-parents étaient habillés traditionnels
Ils étaient habillés, mais mes grands-parents, ouais. Mon grand-père, je me rappelle toujours, il avait sa belle cravate, sa belle chemise blanche, son beau pantalon, mais sur lui, il mettait une djellaba.
Ah, d'accord. Tout le temps ou juste pour le Shabbat?
Pour Shabbat.
Pour Shabbat. Oui. Et sinon, pour la journée, pour se travailler?
Pour le travail, je pense qu'il mettait quelque chose sur lui aussi, pour ne pas se salir. Je ne me rappelle pas ce que c'est, mais ce n'était pas cette djellaba que je voyais. Je disais, pourquoi enlève-moi ça, j'aime pas. Là, reste avec ton costume. Me dit non, c'est Shabbat, je dois aller à la synagogue comme ça.
La plupart des gens allaient à la synagogue en djellaba?
Lui, en tous les cas.
Il en caftan, il portait pas, non?
Non.
D'accord.
Non. Mon père, non, il ne mettait pas.
The other grandmother.
The other grandmother was the one who left to...
He left early, right?
Yeah.
Ok, alors, est-ce que vous avez des souvenirs du Seder de Pessah? Est-ce qu'il y avait des traditions particulières que vous faisiez?
Tradition, oui, je me rappelle ma mère faisait les galettes avec le jus d'orange, qu'ils allaient tout de suite, qu'il fallait qu'il aille au four tout de suite, il ne fallait pas que ça s'attarde à la maison. Et elle préparait les fèves grillées, les noix grillées, de toutes sortes de choses pour l'apéritif, ça je me rappelle, et des gâteaux d'amandes maison, où il n'y avait rien d'autre que sucre et amandes, c'est tout.
Sans pareil.
Eh bien, bien sûr.
Et en fait, en termes de communauté, est-ce que il y avait beaucoup de synagogues? Est-ce qu'il y avait une vie juive très importante? On faisait ses emplettes aussi avant Pessah dans un endroit pour acheter les matzot, etc. Comment est-ce que ça se passait?
Oui. Oui, c'était vraiment avant Pessah, c'était comme à Montréal. Les gens, ils achètent de tout, les épices cachères, les marmites cachères, ça va de la vaisselle jusqu'à...
Vous sortiez une vaisselle particulière pour Pessah?
Bien sûr. Tout devait être neuf. La nappe pour la table... D'abord,
c'est le nettoyage avant.
Un grand nettoyage avant. Mon Dieu, quel nettoyage. Moi, je trouve que c'était de la folie. Tout sortait dehors. Ah. La peinture. Regarder dans les poches. Elle nous donnait, ma mère, les poches de mon père, voir s'il n'y avait pas de miettes ou un bonbon. Il fallait tout nettoyer.
Quand vous dites la peinture, vous étiez en train... Il fallait repeindre?
Il fallait, oui, à Pessah, il fallait repeindre la maison.
Okay. Et donc, la synagogue, est-ce que c'était une petite synagogue un peu familiale ou est-ce que c'était une grande synagogue où tout le monde se retrouvait?
Pour maintenant, on se dit que c'était des grandes synagogues. Mais quand ma sœur, elle est partie, elle me dit que tout ce qui nous paraissait grand est devenu très petit. Les ruelles qu'on habitait nous paraissaient immenses, mais non, tu te dis, mais c'est pas possible, à peine, c'est minuscule. Alors, je peux pas vous dire que c'était très grand, les synagogues, mais il y avait beaucoup de monde, je sais, c'était... Et puis on avait des synagogues dans chaque quartier, on avait deux, trois synagogues. Et les familles étaient nombreuses, ouais, avant.
Et vous étiez proche du rabbin ou juste...
Ah, quand on voyait le rabbin, c'était quelque chose. On allait lui embrasser la main. Et pour nous, quand on voyait le rabbin, c'était pour nous, vous voyez, un ange qui passait. Hein?
Il avait l'air d'un ange.
Et puis, ils avaient l'air des anges. Vraiment, c'était quelque chose pour nous. On passait, on voulait leur embrasser la main.
Et donc, est-ce que, bon, votre maman était très occupée, mais est-ce qu'elle s'impliquait, est-ce qu'elle aidait d'autres gens, est-ce qu'elle s'impliquait dans la vie communautaire juive ou elle était plutôt centrée sur sa famille?
Elle était centrée sur sa famille et aussi sur sa sœur qui n'avait pas les moyens. Elle aidait beaucoup financièrement. Mon père aussi, c'était la même chose. Il aidait sa sœur financièrement, ils n'avaient pas les moyens. Et en général, mon père, d'après tous les gens qui étaient ses clients, me disait « ton père, c'était un ange pour nous » parce qu'il savait les gens qui n'avaient pas les moyens, il leur donnait et il leur envoyait.
Pour qu'ils aient de la viande,
pour qu'ils aient pour Shabbat.
Même la viande.
Oui, même la viande. Et quand il venait au magasin, il savait que c'est des gens qui n'ont pas les moyens de payer. Il le savait. Alors, je pense que c'était sa grande mitzvah, c'était celle-là. C'est ce qu'il faisait pour les gens.
Chacun à sa manière, comme on dit.
Oui, chacun à sa manière.
De faire la tzedaka.
Donc oui, en fait, la tzedaka, c'est ça.
Vous qui êtes sa fille, vous pouvez dire que c'est un homme qui est, faisait des bonnes actions par ce biais-là. Il aidait la famille déjà, sa propre famille, oui, qui est la première mitzvah, oui, et ensuite il aidait les gens nécessiteux. Et est-ce que vos parents avaient des superstitions, avaient des uniques,
Non, du tout. J'ai appris les superstitions quand je me suis mariée. Ma belle-mère était très superstitieuse et je comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi elle me disait « fais ci, fais ça, ne dis pas ça ne... ». Alors ça me paraissait bizarre. J'allais chez maman, je lui disais « tu sais, ma belle-mère, chaque fois, elle me dit « fais attention, fais... ». Alors,
quel type de superstition vous avez appris avec votre belle-mère? Sur l'œil, l'oreille?
Oui, beaucoup sur ça. Et quand on te dit ça, il ne faut pas répondre ça, il ne faut pas dire. Il faut... En fait, des choses, avant, ça me rendait un petit peu... J'aimais pas tellement parce que je comprenais pas. Je disais, c'est quoi ça? C'est... Parce que dans ma famille, jamais ma mère nous disait des affaires comme ça. On n'était pas du tout, et jusqu'à présent, on n'est pas superstitieux du tout dans la famille. On n'a pas de superstition. On croit qu'au bon Dieu, c'est tout. On ne croit pas à autre chose.
Vous avez été à l'Alliance, toute la famille, vous avez été à l'école à l'Alliance,
oui.
C'était uniquement dans le but d'aller à l'école, ou est-ce que vous aviez, vous m'avez déjà expliqué, mais vos parents n'étaient pas vraiment impliqués dans cette vie communautaire, autre que par la synagogue, mais c'était pas des gens qui, on va dire, ils s'étaient trop occupés pour leur travail pour aller être dans des œuvres caritatives, pour aider. Ils aidaient au niveau individuel, mais est-ce qu'ils s'impliquaient dans des sociétés juives, dans des...
Les synagogues.
Ou sur les 14
enfants. Hein.
Surtout la synagogue.
Merci.
Voilà.
Ok, mais c'est une bonne chose. Qu'est-ce que c'est?
Ok. Alors, puisque vous dites vous-même que votre grand-mère est partie très tôt, en 1948, quelle était l'opinion de votre maman sur le sionisme et le fait d'aller en Israël? Comment est-ce qu'elle percevait l'État d'Israël, votre maman et même votre papa, enfin, vos parents?
Mes parents n'ont jamais pensé vraiment à aller en Israël, jusqu'au moment où mon frère cadet a voulu suivre sa fiancée. Et ma mère, c'était son préféré. C'était le nom de son père, c'est Maxime. Pour elle, il fallait qu'elle parte avec lui. Il voulait suivre sa fiancée. Et ma mère devenait, elle a dit à mon père, non, nous aussi, il faut vendre la maison, il faut qu'on aille nous aussi, je ne vais pas laisser mon fils aller tout seul. Et mon père lui a dit, écoute, on a, et tous ses enfants, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, il y a un rabbin qui lui a proposé une place, aller à Paris, ils avaient besoin d'un homme comme mon père. Il lui a dit, si tu vas à Paris, tu vas voir ci, tu vas voir pas. Mais ma mère, elle voulait Israël. Elle dit, ma mère est là-bas, et mon frère est là-bas, on a de la famille là-bas, on n'a plus rien à faire ici, il y a beaucoup de gens qui s'en vont, et bien nous aussi, on va partir. Et mon père, il avait vraiment une très bonne situation au Maroc. Il fallait tout quitter pour poursuivre mon frère Maxime. Et c'est comme ça qu'ils sont partis.
Quand on lui a proposé quelque chose en France, c'était pour être boucher aussi ou c'était pour...
Pour être avec le rabbin dans l'endroit où il faisait les bêtes.
C'est lui qui
les
faisait
bêtes,
l'abattage.
Parce que c'est lui qui faisait l'abattage. Ils avaient besoin d'un homme comme...
Rabbin. Le rabbin surveillait, et lui, c'est lui qui faisait l'abattage.
Et c'est lui.
Donc, en quelle année est-ce que vos parents
sont partis? Ils sont partis, je pense, en 62.
48 et 16.
Non, avec la guerre de l'indépendance,
hein? Non.
La guerre des 6 jours, vous voulez dire?
Non, la guerre des 6 jours, c'était bien. Après, ils étaient déjà en Israël. Oui, parce que j'ai été les voir après la guerre.
Donc, ils sont partis en 1900, à peu près, en 1962-63.
Oui, avant la guerre des 6 jours, oui. Bien.
Donc c'était 67 les guerres des 6 jours.
La guerre, non, en
64. Tu es marié, toi?
En 63, je me suis mariée.
Ils étaient encore là.
Ils étaient encore au Maroc, mais quoi, un an et demi après, ils sont partis, ils ne sont pas restés.
Toute la famille est partie, donc vous dites qu'il y a 4 frères et sœurs qui sont nés en Israël.
En Israël.
Donc ils sont partis avec 9 enfants.
Shoshana est née justement au moment où ils faisaient leur bagage. Elle est née, elle venait d'accoucher maman, Elle n'avait même pas un mois quand ils sont partis.
Shoshana, c'était la numéro 10
C'était numéro 11.
Un numéro 11. Donc 11. En fait, il y en a une qui est née 11. Encore au Maroc et les trois
et
autres.
Et les trois autres, ils sont
d'accord. Ouais. Donc, et là, vous êtes la seule qui soit restée au Maroc.
Oui, la seule la seule fille qui est restée au Maroc. Ah non, j'avais mon frère Jacques.
Oui, alors tu peux parler.
Oui. Mon frère Jacques et moi, lui, il était à Meknès et moi à Casa. Mm-hmm. Et on se voyait pratiquement toutes les semaines. Shabbat, j'allais chez lui, il voulait qu'on soit Shabbat ensemble. Et après ça, on a décidé d'aller voir mes parents en Israël après la guerre. J'avais très peur pour mes frères aussi. J'avais toutes choses qui me passaient par la tête. Et je suis partie les voir, ça m'a soulagée. Et après, quand mon père lui a dit à mon mari, écoute, avec ton métier, c'est difficile, tu ne parles pas l'hébreu, il va falloir faire tes études pour la comptabilité, ça va être difficile pour vous. Alors, on a décidé de venir au Canada.
Donc en fait, lorsque vous aviez 16 ans, vous avez donc rencontré votre mari.
Oui.
Shall we talk about the meaning with the husband?
Right, but ask this first. Because this follows up from what she was saying, she was afraid.
Ok, donc en fait, lorsque vous êtes parti en Israël, donc vous avez été rassuré, vous avez trouvé que vos parents étaient bien installés quand même.
Plus ou moins, pas tout à fait.
Mais par contre, donc, vous vous étiez rassuré pour eux,
oui.
Vous vous êtes resté, mais est-ce que vous avez souffert d'antisémitisme ou d'antisionisme quand vous étiez au Maroc, quand vous êtes resté?
Quand je suis restée, au début, bon, c'était bien, mais après, comme je vous ai dit, la guerre des 6 jours, quand mon mari nous a trimballés en France et que je suis revenue, tout ça, quelques mois après... on a trouvé un couteau sur ma porte d'entrée et mon mari l'a eu très très peur. Il voulait partir.
Donc juste, c'était comme une menace pour vous.
C'était comme une menace, mais en réalité, on ne sait pas qui. Est-ce que c'est quelqu'un qui nous voulait du mal? Est-ce qu'ils nous l'ont fait exprès pour partir? Est-ce que c'était... Il avait plusieurs ouvriers, c'était une grosse compagnie pour qui il travaillait, c'était la carrosserie Martinez à Casablanca, comptable, mais il s'occupait de tout. C'était comme le boss. Et il gagnait très bien sa vie. Et après ce couteau, il a eu très peur, il voulait qu'on parte. Mais en réalité, maintenant, quand je réalise, je me dis, bon, on était très bien au Maroc, on ne manquait de rien, on était bien avec les musulmans, ils étaient bien avec nous, ils ne nous ont jamais fait de mal. Mais à cause de ce couteau, on ne sait pas qui a fait ça, ça y est, c'était la frousse.
Peut-être aussi, est-ce qu'il y avait des gens auprès de vous, est-ce que vous avez senti que les gens aussi partaient?
Ah oui, les gens partaient, beaucoup. Les gens partaient beaucoup. Surtout à l'époque où nous, on a quitté, il y a une grande vague qui est venue à Montréal.
Donc ils pensaient un peu comme votre mari, que la situation était peut-être...
Oui, peut-être. Mais moi, j'ai...
Mais par contre, ce n'était pas flagrant. Il n'y a pas eu des attentats comme...
Non.
Il n'y a pas eu des juifs qui se sont fait tuer. C'était une ambiance, plutôt.
C'était surtout... par exemple, l'entourage des Fatma qui travaillait chez la voisine et l'autre se réunissait et commençait à parler à, tu sais, les juifs, donc, des trucs comme ça. Alors quand on entendait ça, ça faisait quelque chose, ça faisait un peu peur, surtout pour les bébés, les petits. Et ma belle-mère me faisait beaucoup peur. Elle me disait, tu sais, ils vont te prendre les enfants, un jour elle va te prendre Cathy, elle n'a pas d'enfant, elle va te la prendre. Et elle adorait mes enfants, et je voyais qu'elle les adorait. Mais à force qu'on vous dit ça, la peur, elle pénètre dans votre tête, et puis vous commencez vraiment à avoir peur aussi. Mais autrement, je sais pas.
Donc en fait, si quand on parle de votre vie au Maroc,
oui.
Si vraiment, bon, tous les entretiens ont montré ça, mais je suis obligée un petit peu de vous reposer un peu ces questions-là.
Oui.
Mais hormis c'est le fait qu'il y ait eu ce couteau,
oui.
Non seulement vous viviez bien
oui.
au Maroc, mais finalement vous n'aviez pas beaucoup de trop de relations très profondes avec les Arabes. C'était on vivait en bon
voisinage, oui.
Bon voisinage, mais est-ce que vous étiez invité à leur mariage, par exemple?
Non.
Non. Chacun de son côté.
Oui.
Vous n'étiez pas invité à leur fête, pas invité à des mariages, pas invité.
Non.
Vous n'avez pas le souvenir que vos frères aient invité des petits copains musulmans au bar mitzvah.
Non.
C'était chacun de son côté.
Oui. Non. Ça, je. Non. Elle n'avait pas. Juste pour la soirée de la Mimouna. Tous les Arabes qui travaillaient pour mon père, qu'ils étaient à l'écurie, comme ils étaient dans l'endroit où ils élevaient les bêtes et tout ça, ils venaient, ils nous amenaient un tas de choses, du beurre, du lait, des trucs,
du pain,
et, hein, du pain, du blé, pour nous souhaiter tarbah, comme
ils
disent.
Et durant le ramadan, vous n'aviez pas... la fête du mouton, etc. Vous n'avez pas particulièrement participé.
Non.
Enfin, vous étiez au courant, mais chacun...
Oui, nous étions au courant, mais on participait.
Pas de fête d'anniversaire.
Non.
Chacun, non.
Mais pour moi, à part ce couteau, j'ai toujours bien vécu au Maroc. Et mon mari, il a quitté le Maroc juste au moment où il pouvait être très riche. Parce que les Français leur disaient il faut prendre un Marocain même pour un dirham, sinon vous sortez du Maroc. C'était une époque où il fallait s'associer avec un Marocain si tu veux garder ton business. Et c'était une grande carrosserie qui s'appelait Carrosserie Martinez. Et ils adoraient mon mari. Quand il voulait partir, il venait pleurer à la maison. Il lui disait tu me donnes l'ulcère. Il lui dit ça y est, mon cadre est parti, je vais partir. Je ne vais pas rester. Il dit, je te ramène le cadre, je te construis une villa à côté de la mienne. Tu auras le garde pour t'amener les enfants à l'école. Alors, tu ne vas pas avoir peur. Et avec ça, mon mari n'a rien voulu savoir. Il voulait partir.
Donc, entre le moment où vous avez reçu le couteau et le moment où vous êtes parti, il y a eu combien de temps?
Ah, au moment où nous a mis le couteau, eh bien maintenant ça fait au moins plus de 40 ans qu'on est à Montréal.
Non, je veux dire, entre le moment où il a pris le moment où vous avez le couteau et le moment où il a pris sa décision et vous avez pris le bateau.
Ah non, non, nous on a pris l'avion.
L'avion.
C'est-à-dire, on était en Israël et on est passé à Paris pour voir. Après la guerre des six jours, une association israélienne, je ne sais pas comment elle s'appelait, c'est eux qui faisaient les papiers pour les gens pour aller au Canada.
Ah d'accord, donc vous êtes parti de Meknès à Montréal.
Non, on est parti de Casa à Paris. De Paris, on a été voir le bureau qui s'appelait, je ne sais pas, Svar, je ne sais pas. On faisait la demande pour aller au Canada. Je ne sais pas comment ça s'appelait. Et là, ils nous ont dit, il n'y a pas de problème, ils nous ont inscrits et tout, mais ils nous ont dit, quand vous avez les moyens d'aller en Israël, ça veut dire que vous pouvez prendre vos billets vous-même pour aller à Montréal. On a dit, mon mari leur a dit, il n'y a pas de problème.
Donc vous avez vendu, vous aviez acheté quand vous êtes marié, vous aviez une maison ou vous étiez en location?
Non, on était en location.
Vous étiez en location, donc vous avez fait votre cadre.
On a fait notre cadre, on l'a envoyé. Et on est venu tout de suite après. Et c'est la Jayas qui nous a reçus. La Jayas nous a beaucoup aidés. Énormément aidés.
C'est comme quoi par exemple? Pour les
papiers. La Jayas, elle nous a aidés dans tout. Dans tout nous. D'abord, on est arrivé la veille de Rosh Hashanah. Et il est venu quelqu'un à l'aéroport nous chercher. Il nous a dit, vous savez, demain c'est la fête, je sais pas, c'était Steinberg ou quelque chose comme ça, vous allez acheter tout ce qu'il vous faut parce que demain c'est fête. Et après ça, il nous a dit, après les fêtes, vous allez venir au bureau de la Jayas. Et c'est celui qui va s'occuper de vous, il s'appelle Monsieur Stein. Et vraiment, il s'est occupé de nous, mais alors, pour mettre les enfants à l'école, les docteurs qu'il faut voir, les docteurs pour les enfants, les vêtements d'hiver. D'abord, on est rentré sur la rue, comment s'appelait cette rue, et on a trouvé dans l'appartement des draps neufs, des oreillers neufs, avec bienvenue sur le lit. Moi, je suis restée, je dis, c'est pas possible, tout ça on fait pour nous, c'est extraordinaire. J'étais vraiment... Même on est parti au marché, mon mari voulait payer, il lui a dit non, non. Il lui a dit parce que je dois changer de l'argent français. Il lui a dit non, non, ne vous en faites pas, rien qu'acheter ce que vous avez besoin. Moi, je m'en occupe. Et ils se sont occupés de nous. Mon mari n'arrivait pas à trouver du travail parce qu'il fallait d'abord apprendre l'anglais. Et après, comme il était comptable, mais il était plus, sans être vraiment à l'école pour être expert comptable, lui savait de tout mieux que quelqu'un qui a fait vraiment expert comptable. Alors quand il allait dans les compagnies, moi je sais faire le truc des livres et je sais faire ça, ah non c'est trop pour nous, on n'a pas besoin de ça, nous on a besoin juste d'un petit comptable. Après ça, quand il a vu que c'était difficile, il a pris les machines à dactylo et c'est là où il a commencé à travailler. Mais pendant au moins, je dirais 4 années, 3 ans à 4 ans, la Jayas ne nous a pas laissé tomber. Mon mari, il avait un salaire, et moi je venais d'avoir un autre bébé, la troisième puis la quatrième. Alors vraiment, que ça soit...
C'était un salaire qui était donné par la Jayas, mais
au début, quand même. Au début, ils nous donnaient pour vivre, et même pour payer le loyer. Et c'est quand il a commencé à travailler, alors il y a un rabbin qui est venu et lui a dit à mon mari, bon maintenant c'est vous que vous allez nous aider. Combien vous pouvez nous donner chaque semaine? 25 dollars, 20 dollars, 30 dollars, ce que vous pouvez. Maintenant vous travaillez, vous êtes bien et tout. Il a dit oui, avec plaisir, ce que vous voulez, tous les mois je vais le donner. Mais pour vous dire que la Jayas, vraiment, elle a fait des choses incroyables. Incroyable. Que ce soit les manteaux, que ce soit les bottes, que ce soit... Monsieur Stein m'envoyait pour tout. Les enfants doivent avoir besoin de ça. De quoi vous avez besoin? C'était magnifique.
Comment est-ce que vous avez pu émigrer du Maroc en France, en fait?
J'ai pas émigré en France.
Vous êtes juste resté en
stand-by pour aller voir Madame Zvark, je sais pas, Madame Zvark, je crois qu'elle s'appelait. C'est elle qui faisait les papiers pour venir à Montréal avec la Jayas.
Alors, quand vous êtes arrivé, vous avez été donc aidé par la Jayas, est-ce que vous aviez rencontré des familles qui étaient dans la même situation que vous?
Ah oui, beaucoup.
Et vous vous êtes rapproché de ces familles-là?
Oui, oui, oui. Chacune racontait son histoire et il y en a qui étaient contentes, il y en a qui n'étaient pas contents. Mais moi, je me suis vite... j'ai apprécié. J'ai
vous avez vite adapté?
Ah, je me suis vite adaptée. Je me suis vite adaptée.
Vous avez retrouvé une synagogue aussi là-bas?
Oui. J'ai retrouvé des amis, des voisins magnifiques. Bon, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le Canada.
Et c'est donc après que votre frère est venu vous rejoindre?
Mon frère est venu juste pour me voir. Il m'a dit, tu sais, j'étais trop languie, je vais venir te voir. Parce que mon père, avant de partir, lui dit, je te laisse ta sœur, mais toi, tu vas remplacer son père. Tu ne dois pas la lâcher, tu dois toujours aller la voir, les Shabbats ensemble, les fêtes ensemble. Alors, mon frère est venu me voir à Montréal et il l'a beaucoup aimé. Et quelques mois après, il est venu.
Et donc, en fait, que ce soit vos parents ou que ce soit vous, ou même votre frère, vous êtes parti relativement librement librement du Maroc.
Du Maroc, oui.
Vous n'avez pas perdu, vous n'avez pas laissé une maison, vous avez tout récupéré.
Non, on n'avait pas de maison, on avait un peu d'argent et c'est tout. On a pris ce qu'il fallait. Non.
Vous aviez quel âge quand vous êtes arrivé au Canada ?
Au Canada, je crois que j'avais 21 ans.
Et donc, qu'est-ce que vous avez conservé souvenir de ce Maroc ? Est-ce que ça vous a manqué, ou comme vous aviez 21 ans, étant jeune, et que vous aimiez le Canada, vous ne vous êtes pas senti trop, est-ce que vous êtes senti nostalgique ?
Non, pas tellement. J'aimais beaucoup le Maroc, mais j'aimais beaucoup Montréal. J'ai beaucoup aimé Montréal.
Vous êtes sentie accueillie?
Je me suis accueillie très bien, même. Plus que bien.
Et donc, en fait, je vois dans votre manière de parler que vous avez conservé un héritage séfarade. Mais en quoi, ne serait-ce même que voir votre maison avec les livres de prière, etc. Des choses qui sont... Qu'est-ce que vous retenez vraiment de votre héritage séfarade et marocain ?
L'héritage, par exemple, comment faire le Shabbat, l'heure où ça doit rentrer le Shabbat, il faut allumer les bougies.
Les traditions.
Les traditions, la façon de recevoir, d'aimer autrui, d'inviter les gens qui n'ont pas où aller. Des choses comme ça, comme elle faisait ma mère. Quand quelqu'un n'avait pas où aller pour passer les fêtes ou Shabbat, on fait la même chose, nous aussi.
Donc l'élément le plus important de votre héritage juif, séfarade, c'est donc votre judaïsme, avec la tradition d'aimer les autres, d'aider
les gens.
Par le biais de la nourriture, par recevoir, donner.
Ouais. Ma mère nous a toujours appris ça, qu'il faut toujours... donner, aimer, ne jamais parler du mal des gens, c'est très important. Elle nous a toujours parlé comme ça, ma mère.
Donc si vous deviez décrire votre identité culturelle, vous êtes avant tout juive, juive canadienne, juive citoyenne, juive marocaine qui est devenue, comment est-ce que vous pourriez vous décrire?
Juif séfarade. Je suis juif séfarade.
Et vos parents, enfin votre maman quand elle est partie en Israël, donc forcément elle était plus âgée, vos parents, et ils ont souffert d'avoir quitté le Maroc plus que vous?
Mon père a beaucoup souffert et il est décédé très jeune.
Vous pensez que il a eu
beaucoup de peine parce que d'abord il fallait changer tout son argent, il fallait presque rien. Et il a vendu la maison pour rien. Il a vendu la maison pas le même prix qu'il l'a construit. Mais ma mère ne disait rien. Elle disait rien, elle savait que c'était sa faute. Alors elle essayait de lui faciliter la vie. Il a commencé à travailler dans une manufacture, il est tombé, il s'est fait mal aux reins, on l'a mal soigné, il a eu le diabète, une chose après l'autre. À 62 ans, il est décédé. Et il a eu beaucoup de peine. Et les bagages, il a mis la plupart de son argent dans les bagages. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans les bagages? Ils ont trouvé des boîtes de peinture et des pierres quand ils ont été chercher leurs bagages. Et c'était horrible. Mon frère Maxime, la même chose. Tout son argent qu'il avait, toutes ses économies, tout l'argent qu'il lui avait donné mon grand-père, il a acheté plein d'affaires parce qu'il disait en Israël, il n'y a pas de jean, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Alors ils achetaient, il mettait dans le cadre et l'envoyait. Et lui aussi, c'était pareil. Il a trouvé, ils ont tout volé. À mon père, la même chose, ils ont tout volé. Alors déjà ça...
Non, c'est du Maroc ou on est arrivé en Israël?
Ah, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Venez prendre votre carte, il est arrivé. Quand ils ont ouvert, c'était la surprise. Ma mère me racontait, parce que moi, je n'étais pas là-bas. Et quand je suis arrivée pour les voir, elle a dit voilà ce qui nous est arrivé, voilà, ton père est tombé malade, et à ton frère c'était la même chose. C'était un coup très dur, très très dur. Et après ça, c'est pour ça que mon père, dès que je suis arrivée, il m'a dit non ma fille, retourne avec ton mari, reste là où tu es, tu viens pas, c'est pas pour lui, c'est pas pour ton mari. Parce que mon mari avait eu un accident, il avait une jambe accidentée, il marchait bien, mais il marchait un peu, et il savait que pour lui c'était pas possible, qu'il pouvait pas,
c'était trop dur
pour, comme ça a été très dur pour lui, il a pensé que pour mon mari ça allait être très dur, et c'est pour ça qu'on a décidé d'aller au Canada.
Donc, il va y avoir des gens qui vont écouter votre entretien. Et
oui.
Qui vont... Quel message est-ce que vous voulez partager
C'est-à-dire
C'est-à-dire qu'en fait, on va dire qu'il y a certaines personnes qui ont quitté un pays
oui.
et qui, parce qu'ils étaient en situation de danger, même s'ils regrettent, ils savaient qu'ils n'avaient pas le choix. Vous, si c'était à refaire, est-ce que vous seriez resté au Maroc ou est-ce que vous gardez juste une nostalgie du Maroc, mais que globalement votre vie après s'est avérée agréable?
Oui, exactement ça. J'ai une nostalgie du Maroc, je me rappelle rien que des bonnes choses du Maroc, mais j'ai beaucoup aimé Montréal. J'ai beaucoup aimé Montréal et je me sens très bien à Montréal et mes enfants aussi. C'est vrai, il n'y a rien à dire. J'aime beaucoup Montréal.
Est-ce que vous êtes retournée au Maroc?
Non.
Jamais? Du jour où vous avez quitté le Maroc, vous n'êtes jamais retournée?
Non.
Comment et pourquoi est-ce que vous pensez que vous n'avez jamais eu envie de retourner?
Pourquoi je ne suis pas retournée? Parce que j'étais très occupée. Mes enfants, c'est un derrière l'autre. Ils ont juste un an de différence. Je n'ai pas eu le temps de penser. Et quand j'ai voulu penser pour aller avec mon grand frère aussi, il avait envie d'aller pour surtout pèleriner mes grands-parents.
Sur la tombe de vos grands-parents.
Sur la tombe de mes grands-parents. Et par hasard, l'année où je voulais aller avec mon grand frère, mon mari est décédé. Alors, c'était pas possible. Dans ma tête, c'est les voyages ou aller quelque part. Pour moi, c'était déjà très difficile de perdre mon mari.
Et alors, encore moins d'aller, de retourner.
Encore moins de retourner. Ouais.
Tu laisses pas. Et est-ce que vous avez eu envie maintenant que... Bon, visiblement, c'est toujours douloureux de parler de manque qu'a laissé votre mari. Est-ce que vous auriez envie de retourner avec vos enfants, avec un de vos enfants là-bas au Maroc, pour aller pèleriner?
Ah, pour pèleriner. Mes enfants, oui, ma fille souvent, elle est invitée même pour des grands mariages arabes et tout ça. Et ils disent, tu viens, tu vas. Et souvent, elle me dit, maman, et je lui dis non. Non, chérie, j'ai pas envie. Je sais pas pourquoi, mais je n'ai pas envie d'aller.
C'est une page que vous avez tournée?
Une page que j'ai tournée. J'ai pas envie de retourner.
Et maintenant, vous retournez régulièrement aussi en Israël?
Oui, très souvent. Je viens d'arriver il n'y a pas longtemps.
Donc, qu'est-ce qui est votre chez vous? C'est le Canada ou c'est Israël? Un peu Miami?
C'est surtout Montréal, le Canada, parce que j'ai mes enfants.
Mm-hmm.
Et Israël, il y a la famille, il faut à chaque fois aller les voir.
Mm-hmm.
J'aime aller les voir pour les mariages, j'aime aller voir. Avant même, j'allais deux fois par année quand mon père était malade, et il me demandait, j'allais deux fois par année. Je laissais les enfants à mon mari, j'allais...
Donc vous allez voir, vous allez
et mes frères et sœurs
là-bas.
Oui.
Et vous êtes une famille de combien de vous avez combien de petits, enfin en tout de petits enfants, enfin d'enfants, mais
mes petits enfants.
Non, vos enfants avec
ah,
les frères.
Mais Mes en...
vos enf... enfin, les en... vos enfants et les enfants de vos frères et sœurs.
Si alors, la, la famille de, du père et de la mère d'Yamaka, combien ils ont donné d'enfants?
Oui.
Par là.
Donc, là, je ne peux même pas les compter.
Peut-être.
Parce que 14 fois,
je
ne
peux même
chacun,
pas les compter.
Chaque fois,
4, 5,
chacun.
Je peux. Oui. Au moins.
Au moins.
Au
14
moins.
Fois 5 au moins.
Oui, au moins.
Et après, bien sûr,
les petits,
donc,
les
déjà,
arrières,
les mariages, il y a des
les
années,
mariages.
Les mariages entre le Canada.
Et moi, et Jacob a venu chez Arad Mitzrayma, chez Mim Nefesh.
Ça fait.
Ouais.
Donc en fait, vous voyez surtout entre Israël et le Canada.
Le
Canada,
Canada
pour les mariages, les bar mitzvahs, les,
et
là, les
oui.
naissances.
Et là, depuis qu'on est à la retraite, moi et mon mari, moi je l'ai connu 8 ans après que mon mari est décédé. J'ai connu Rafi,
au Canada.
Au Canada.
Vous avez été présentés chacun.
Oui.
Pas son frère.
Pas mon frère. Mon frère le connaissait et il me l'a présenté.
Alors, Esther nous a fait un interview. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas d'interview?
Je suis prêt, si vous voulez.
D'accord.
Mais je vous fais un café.
Je vous fais un café. Vous voulez un café?
Si vous voulez, je vous fais un café chacun.
Vous voulez un café?
Un bon café, d'accord.
Un bon café?
Comme ça ou comme ça?
Le petit?
Le petit.
Le petit. Alors,
je
peux...
Je suis pas
alors, continuez,
complètement américaine.
Continuez, parce que...
So, merci beaucoup.
Je vous en prie, ça m'a fait plaisir.
Ça
m'avait
fait...
rappelé
avec un,
des
avec
bons
de,
et
avec
des moyens souvenirs.
Un peu de mousse dans le
dans la mousse, c'est parfait.
Pour
ouais.
tout le monde.
Pour tout le monde.
Donc,
mais,
ça...
mais de l'eau en arrière, il n'y en a plus. Hein.
Donc ça vous a fait du... Quelque part, c'est comme c'est ce que je vous ai dit, c'est émotionnel,
sait,
il y a des,
ouais.
des
y a
ça
des,
ramène,
ça
a des
ramène
souvenirs,
des souvenirs ouais.
ça remue.
Ça remue, exactement.
Mais c'est là un peu ce que vous voudriez dire pour votre message, pour les gens qui écouteront, qu'en fait, ça fait partie de votre héritage et que c'est juste... C'est une partie inhérente de vous, mais que c'est quand même une page tournée.
Oui, c'est quand même une page tournée, absolument.
Parfait. Esther, je vous remercie. On vous remercie tous pour votre témoignage.
Merci, ça fait plaisir.
Thank you.
Bon.
In English, I can say there's two themes that were very